CITV vous présente « Bonjour chez vous », l'émission qui aborde tous les sujets importants à la lumière de la parole de Dieu. Retrouvez tout de suite Yveline et son équipe de chroniqueurs.
Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de « Bonjour chez vous ». Aujourd'hui, notre thème est « Qu'est-ce qu'un évangéliste ?» Bonne question, n'est-ce pas ?
Exactement. Très bonne question.
Bonjour à tous, bonjour à nos invités.
Bonjour.
Vous allez bien aujourd'hui ?
Très bien.
Super, vous nous avez fait deux belles rubriques famille les deux dernières journées que vous n'avez peut-être pas écoutées, alors faudra les écouter après l'émission. Des rubriques famille vraiment formidables. Vous nous avez parlé de la vision de l'éducation chrétienne mardi, mercredi, comment devenir un bon père avec des conseils et puis aussi un témoignage personnel que Rémi, tu nous as apporté. Et aujourd'hui, nous allons parler de ce qu'est un évangéliste. Eh bien, on en a un sur le plateau. En voici un spécimen, un vrai.
Voilà.
Un vrai. C'est pas en voie de disparition, hein ?
Non, normalement pas, en tout cas. Pas d'après ce qu'on m'a dit. Pas jusqu'au retour de Jésus, en tout cas. Après, on n'en aura plus besoin. Donc, Rémi, tu es évangéliste depuis combien d'années maintenant, ce ministère ?
Je dis toujours que je suis né de nouveau évangéliste.
Et okay.
Depuis 34 ans.
Dès que tu as connu le Seigneur.
J'ai commencé à parler de Jésus autour de moi.
Wow.
Et le jour de ma conversion.
Ah, ça c'est extraordinaire. Tomber dedans quand tu étais petit, on peut dire.
Comme Obélix.
C'est ça, exactement. Exactement. Donc tu es, on peut dire, un expert. Il y a eu de nombreuses campagnes d'évangélisation, de nombreux voyages, également de l'évangélisation de rue. Tu vas pouvoir nous partager tout ça et nous définir un petit peu ce qu'est un évangéliste,
son
rôle, ses fonctions, etc. Okay. Nous aurons également une question à laquelle tu vas répondre. Nous avons une question donc, de Carole de France qui a demandé « Pourquoi sonne-t-on parfois du chauffard dans l'église ?» Alors Rémi, c'est toi qui vas répondre à cette question. À la maison, si vous ne savez pas ce qu'est un chauffard, est-ce que je...
Chauffard,
il faut que je le prononce bien. Pas un chauffard sur la route. Non, c'est une sorte de trompette, je vous donne un indice. Vous l'avez peut-être déjà vu. On va voir ce que ça signifie. Il y a toute une signification prophétique.
Absolument.
Et ensuite, Nadine, tu vas passer au travail toi aussi. Tu vas nous présenter dans la rubrique culture et médias un film et une école chrétienne.
Oui, dans la rubrique culture et médias, on aura deux choses à présenter. D'abord, un film qui va sortir bientôt. Et ensuite, l'école Mathurin Cordier, l'école dont Emmanuel s'occupe, qui est une très, très belle école. J'ai hâte de vous en parler.
Exactement. Donc, on va commencer tout de suite avec toi, Rémi, dans la pensée du jour.
Qu'est-ce qu'un évangéliste ? Je vais directement aller dans l'évangile de Marc au chapitre 16. Puis il leur dit « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Cette fin de l'évangile de Marc donne faim à l'évangéliste. Ça nous donne faim et soif. Et on veut aller dans le monde entier prêcher la bonne nouvelle. On a une bonne nouvelle. Et qu'est-ce que cette bonne nouvelle ? Cette bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu mourir sur une croix pour nos péchés. Et il est ressuscité. Et il est vraiment vivant. C'est pas un conte, une légende. C'est la réalité. Et l'évangéliste est une personne qui a été complètement baptisée, brûlée d'amour par cette réalité de l'amour de Jésus qui s'est manifesté, l'amour de Dieu, l'amour du Père manifesté sur cette croix. Un des versets préférés de l'évangéliste, c'est « Car Dieu a tant aimé le monde », Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Un évangéliste a tellement le désir de faire connaître ce Jésus qui a vaincu la mort. Un exemple de l'évangéliste, c'est dans 1 Corinthiens chapitre 2 où on voit l'apôtre Paul qui dit qu'il a préféré annoncer l'évangile avec puissance et non pas s'appuyer sur des discours de la sagesse, mais de manifester, de démontrer la résurrection, la puissance de la résurrection par des signes, des prodiges et des miracles, afin que la foi de ces gens ne soit pas fondée sur de la religion ou des doctrines, mais sur la puissance de Dieu. Un évangéliste, c'est un homme qui est rempli d'amour, rempli de passion pour la moisson, pour cette grande moisson d'âmes dans le monde entier. L'apôtre Paul parle de de cinq ministères, eh bien, parmi les cinq, il y a l'évangéliste dans Éphésiens 4, 11. Alors, peut-être nous allons le découvrir dans notre débat.
Absolument.
Je te laisse la parole.
Absolument, merci beaucoup Rémi. Et oui, un évangéliste, hein, il est passionné ouais. par les âmes. Et tu l'as même décrit avec passion.
Plus fort que moi.
Parce que c'est ça l'évangéliste, c'est un passionné. C'est un passionné et c'est ce que j'aime vraiment. Moi, je trouve ce ministère magnifique et je dois l'avouer, oui, j'aime beaucoup lire les biographies d'évangélistes. J'aime vraiment ce ministère parce que justement, ce sont des hommes ou des femmes d'ailleurs, hein, un peu l'un ou l'autre, qui sont passionnés pour un message en fait qui peut paraître très simple, très oui. connu dans l'Église et fou également, mais qui ne cesse de le prêcher et de toutes sortes de façons qui pour aller toucher le cœur en fait de ceux qui sont perdus. Et c'est un ministère extraordinaire, souvent accompagné de signes, de prodiges et de miracles. Tu as cité le verset au début, puis on va pouvoir en parler ensemble. On peut regarder notre verset du jour pour commencer, 2 Timothée 4, 5. « Mets-toi, donc Paul s'adresse à Timothée, « Mets-toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. » On voit vraiment que c'est un ministère en tant que tel. Et c'est vrai qu'on connaît beaucoup le ministère du pasteur, hein, parce que généralement, on est dans une église locale quand on est chrétien et on a un pasteur qui prêche chaque dimanche en face de nous, un pasteur qui prend soin de nous, etc. Et puis le ministère d'évangéliste, parfois, est peu connu, d'où le titre de cette émission et ce thème qu'on aborde aujourd'hui pour un peu mieux découvrir ce ministère d'évangéliste. Et Rémi, comme je l'ai dit, tu es un évangéliste vraiment, tu es pasteur aussi également depuis peu, mais tu as ce cœur d'évangéliste vraiment en toi. Quelles sont les caractéristiques, les spécificités justement d'un évangéliste ?
Je crois qu'un évangéliste est une personne qui est très dans la com. On est fait pour communiquer et communiquer au-delà des frontières de l'Église. Mmh. Nous sommes comme des prophètes aussi et comme des apôtres aussi. En fait, je trouve que les cinq ministères, en fait, c'est Jésus qui est revenu au travers de l'Église, au travers des dons du Saint-Esprit. Et l'évangéliste, c'est vraiment un personnage qui reflète un des caractères de Jésus-Christ. Ce qui est un bon berger qui laisse les 99 justes pour aller chercher celle qui est perdue. Mmh. Et je crois que vraiment l'évangéliste est une voie prophétique pour l'Église, parce que quand nous prêchons l'Évangile et nous le prêchons avec ferveur, avec une autorité spirituelle qui démontre la puissance de la résurrection, la puissance du Saint-Esprit, et nous réveillons aussi l'Église, qui parfois peut-être peut s'endormir. J'ai un de mes messages de prédilection quand je prêche dans l'église locale, dans les églises locales, parce qu'il y a une différence entre prêcher dans une église et puis prêcher ce qu'on appelle une campagne d'évangélisation, oui. où l'estrade, on fait du bruit, les gens viennent, il y a toutes sortes de personnes. Mais dans l'église, j'aime à prêcher le message, la clé du bonheur. Et la clé du bonheur, c'est en fait ce que toutes les personnes viennent chercher à l'église, on vient chercher le bonheur. Et je me suis aperçu que, en fait, le mot enthousiaste, être enthousiaste, anthéo, c'est être en Dieu, en fait.
Ok.
Jean, dans la première épître de Jean, il dit « Celui qui confesse Jésus-Christ devant les hommes, Dieu demeure en lui et lui demeure en Dieu. Mm-hmm. » Et j'ai remarqué que les évangélistes sont des gens toujours enthousiastes. Les gens qui témoignent de Jésus ont toujours de l'enthousiasme. Et quand on témoigne de Jésus, et je fais toujours cette enquête et je fais venir les gens devant. Alors, mais comment ça se passe ? Qu'est-ce qui se passe quand tu témoignes de Jésus ? Et je crois qu'il y a différentes façons d'annoncer l'évangile, parce que je crois que les gens ont besoin d'entendre l'évangile dans leur langage, en fait. Dans tous les langages de la terre, cet évangile doit être prêché. Et on peut être évangéliste de façon très artistique aussi, au travers des arts, et ça va pas forcément se manifester avec des résurrections de morts ou des aveugles guéris, par contre, au travers du témoignage et au travers de ce travail d'évangélisation, au travers par exemple de l'art, le Saint-Esprit aussi va agir et gagner des âmes. L'apôtre Paul va dire une phrase tout à fait pertinente. Il dit: je n'ai point honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et en fait, c'est l'évangile lui-même qui est une puissance. Et j'ai entendu même le témoignage d'un gars qui a été touché par, en fin de compte, un porte-clés. Tu vois, c'est-à-dire qu'il est allé se suicider, il a trouvé un porte-clés par terre, il l'a ramassé, c'était marqué « Jésus t'aime », et au moment, il a lu ça, L'évangile a pénétré son cœur et le gars, il a trouvé de l'espoir et il s'est tourné
vers Jésus.
Il s'est sauvé par un porte-clés tout pourri, séché par terre. Quoi. J'ai même entendu, lu le témoignage d'une personne qui s'est convertie. Il avait accompagné sa femme dans une convention. Il refusait absolument l'évangile, mais bon, il était gentil. Il avait amené sa femme quand même. Il faisait beau, ils étaient dans l'herbe. C'était entre les deux réunions. Et puis, il y avait la Bible de sa femme qui était là. Alors, il était comme ça, il regardait du coin de l'œil. Il y a eu un coup de vent et une mouche s'est posée. Il a lu le verset et ça l'a touché. Wow. Un coup de vent, une autre mouche s'est posée, ou la même, et il a lu un deuxième verset. Il a commencé à craquer à l'intérieur. Ouais. Au troisième verset, une mouche l'a amené à Jésus-Christ. C'est très vexant pour un évangéliste. Et en même temps, c'est une grande délivrance. C'est que c'est pas l'évangéliste qui fait la différence, mais c'est la parole de Dieu. C'est l'évangile que nous semons. Et c'est pourquoi un grand homme de Dieu que j'ai vraiment chéri et pour qui j'ai prié pendant des années, Osborne, T.L. Osborne, si vous connaissez, disait, mais annoncez la bonne nouvelle. Prenez tous les moyens qui sont à disposition. Et je félicite l'équipe d'enseignement.com, MCTV. Quel beau travail vous faites d'annoncer. Je pense que effectivement, la com est aussi le travail des médias et aussi un ministère d'évangélisation.
C'est vrai, effectivement, c'est un moyen de rentrer dans les maisons, exactement, là où peut-être on ne peut pas aller, là où peut-être les gens ne sortent pas pour venir dans les églises, parce que justement, l'évangéliste n'est pas forcément que dans les églises locales, t'en parlais, ces campagnes d'évangélisation, ça c'est quand même un point quand même assez central dans la vie de l'évangéliste.
Alors effectivement, après avoir travaillé beaucoup dans les rues, à un moment donné même je me mettais en clown pour interpeller les gens, tout ça, et ça m'arrivait de prophétiser sur des gens, c'était vraiment super, puis j'ai commencé à avoir des invitations pour faire de l'évangélisation dans le cadre d'églises locales. Mmh. Et puis à un moment donné, vraiment ça, on m'a ouvert les portes dans les nations et j'ai commencé à travailler un peu comme les grands noms qu'on connaît, comme Renard Bandquet ou des gens comme ça, et rassembler des finances parce que ça coûte beaucoup d'argent.
Avant l'évangile, de rassembler les foules,
l'évangile est gratuit,
finances,
mais évangéliser, ça c'est ça quand même moins gratuit.
Oh, oui.
Et parfois, effectivement, l'évangile souffre un petit peu cette bataille des finances parce que, effectivement, les dîmes vont plutôt souvent au pied des pasteurs qu'au pied des évangélistes. Mais c'est pas grave, Dieu est fidèle et on a toujours vu la main du Seigneur toucher des cœurs et de façon très généreuse aussi, parfois même pour les campagnes d'évangélisation. Donc rassembler des pasteurs qui vont accepter de travailler ensemble dans une ville et jeûner, prier ensemble avec eux et les encourager, parce qu'une campagne d'évangélisation, c'est aussi une campagne de consolidation de l'Église.
Ouais.
Et on vient avec un feu qui produit des signes, des miracles et qui vont bien sûr susciter une moisson d'âmes auquel il faudra prendre faire attention et la consolider derrière. Mmh. Donc ça, c'est le travail aussi des églises locales.
Oui.
Et puis, effectivement, et bien mettre en place, en fait, faire du bruit dans la ville, en fait. Ça, j'aime tellement ça. Une estrade, mettre les spots, et on met la musique, et on met le feu, et puis...
On attire les gens, on attire la curiosité, c'est ça.
De toute manière, c'est une fête. L'évangile est une fête. Les gens ont besoin de comprendre que nous, on est dans la fête, parce que Jésus-Christ est ressuscité. Il y a beaucoup de toutes sortes de prophètes qui ont existé sur terre, on sait même où est l'adresse de leur tombeau, mais le tombeau de Jésus est vide, et nous annonçons un Jésus vivant. Et la première fois que j'ai vu un aveugle guéri, Yveline, je me suis converti tout à nouveau. et je dois, je le dis, et c'est la vérité, la plupart des miracles qui sont racontés dans la Bible, moi je les ai expérimentés sous mes propres yeux, dans le cadre de ce ministère.
Mmh.
Et quand une personne, une famille voit, par exemple, un papa qui mourait du cancer être guéri instantanément, enfin... ça change l'histoire de cette famille, ça va changer l'histoire aussi de ce quartier, ça va changer l'histoire de cette ville. Et ça, c'est l'impact de l'évangéliste. On le retrouve dans les Actes avec l'évangéliste Philippe,
oui,
qui est en Samarie, va crier l'évangile. Hein, dans la Scofield, c'est carrément ça écrit. Hein, il criait l'évangile dans la rue et le Seigneur accompagnait sa prédication par des signes, des miracles. Donc, les signes, les prodiges, les miracles, ce n'est pas une option de l'évangéliste.
Pourquoi c'est si important, hein?
Parce que les gens ont besoin de voir une manifestation de la bonté de Dieu. C'est même écrit dans Jean, au moment où Jésus a changé l'eau en vin, c'est dit que ses disciples ont vu sa gloire et ils ont cru en lui. Hey, c'était déjà des disciples, mais il y avait un niveau où ils s'étaient arrêtés de croire. Il y a toujours un endroit où on s'est arrêté de croire. Et les signes, prodiges, miracles sont là pour faire éclater ce plafond de verre. Et je l'ai expérimenté plusieurs fois dans ma vie. Mmh. Effectivement, au début, j'ai vu quelques petites guérisons, des jambes rallongées, ce genre de guérisons.
Ce qui est déjà pas mal quand même.
Ce qui est déjà pas mal, effectivement. Mais quand tu as une personne qui vient avec un œil tout blanc, tu pries, puis l'œil est devenu normal et tu n'as même pas eu le temps de voir comment ça s'est passé. Ouais. Enfin, je ne vais pas vous dire comment Dieu fait ses miracles, mais il les fait. Et ça change la vie des gens quand, effectivement... Hey, tu prêches un Jésus vivant. Okay, maintenant, on a besoin de l'expérimenter. Mmh,
mmh. C'est vrai, exactement. Tu veux ajouter quelque chose, Aurélie ?
Gloire à Dieu. Mais c'est ça, hein, quand on dit que l'évangile ne consiste pas seulement à parler, mais qui est aussi une démonstration de puissance. Mmh. Et c'est ce qu'on doit voir, en tout cas, quand on fait de l'évangélisation. Et moi, je veux encourager les personnes, en fait, qui ont commencé à évangéliser. Peut-être qu'il y en a qui se disent « Ah, mais moi, je sors, je ne vois pas encore de résultats. » Est-ce que ça veut dire que je suis pas un vrai évangéliste, etc. Mm-hmm. Mais c'est de se dire que ça prend le temps que ça prend, mais au final, on commence à avoir quelque chose. Mm-hmm. On va commencer, peut-être pour certains, ce sera peut-être des maux de tête qui vont commencer à s'en aller. Mais après, ça va grandir. Après, on va passer, je sais pas, à une jambe qui s'allonge, on va passer à autre chose. Mais toujours est-il que le mot d'ordre quand on veut évangéliser, c'est aller. Mm-hmm. Il faut aller quelque part, il faut le faire. Ça peut être dans son quartier, ça peut être même auprès de ses proches, ça peut être partout, mais il faut aller. Mm-hmm.
C'est vrai que Rémi, ton premier champ missionnaire, c'était ton travail quand même, en tant qu'évangéliste.
Sur mon lieu de travail,
avant de partir.
J'étais un chrétien déguisé en électricien. Et, je faisais mon travail, mais mon travail principal, c'était vraiment de brancher les gens sur et à un moment donné, j'ai même décidé que j'allais exercer le ministère de miracles de guérison sur mon lieu de travail. Et ça s'est produit. Et à un moment donné, il y avait des gens qui venaient en cachette pour que je prie pour eux. Quoi. J'ai expérimenté ça sur mon lieu de travail. Ce Jésus est vraiment vivant. Mmh. Et quand on commence à faire confiance à Dieu dans cette dimension-là, on voit que le Seigneur est prêt pour opérer. Mmh. Il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il n'y a aucune raison qu'on n'ait pas les mêmes miracles qui sont dans la Bible aujourd'hui. Dieu aime autant l'humanité qu'il y a 2000 ans ou il y a, je ne sais pas, 6000 ans, 10 000 ans, j'en sais rien. Enfin, en tout cas, il y a 2000 ans. J'étais pas encore née.
Comment on sait qu'on est appelé au ministère d'évangéliste? Il y a des gens qui nous écoutent et peut-être qu'ils se sentent un peu interpellés, ont un certain fardeau pour les âmes perdues. Mais est-ce que je suis évangéliste? Et on se pose la question.
De la même manière que tu sais que tu vas te marier avec, comme je suis tombé amoureux de cette femme-là, cette merveilleuse épouse que Dieu m'a confiée et m'a donnée, et c'est un tel cadeau. Je suis tombé amoureux d'elle, et en fait, même j'ai lutté pour eux, parce qu'à un moment donné, je voulais être curé, moi, à l'époque.
Oui, c'est vrai, donc c'est un peu embêtant.
Alors, donc, ça a été vraiment. Et j'ai pas pu empêcher ce feu, faire qu'on soit mariés. Et le ministère d'évangile, c'est exactement. C'est comme un pasteur. Un pasteur, il a un cœur brisé pour la famille, pour les gens. Tu as de l'amour, en fait, qui brûle dans ton cœur, puis tu peux pas t'empêcher, tu témoignes de... Mais tu vas quand même pas parler là de Jésus, là, tu vois bien, on est en famille, et puis là, ok, d'accord, je vais me calmer un peu, et puis ça sort, tu vas
c'est
témoigner
comme,
du Christ.
C'est plus fort que toi, quoi.
C'est vraiment, c'est comme un feu qui est dans tes os, en fait.
C'est une passion.
J'aimerais dire quelque chose par rapport au ministère d'évangéliste. Je sais pas si tu as vu ce film Le jour le plus long, où on voit des jeunes gens dans des barques qui vont débarquer en Normandie. Mmh. C'est le débarquement et c'est très bien filmé. On les voit trembler.
Il est très dur.
On en voit qui sont en train de vomir. Ils savent qu'il y en a plus. Ils savent qu'ils vont au casse-pipe, en fait. Et l'évangéliste sait qu'il va au casse-pipe. C'est une guerre spirituelle. Mmh. Prêcher l'évangile, c'est pas, on va pas jouer à la marelle. On attaque l'empire du diable.
C'est vrai.
Du diable, c'est la maladie, c'est les puissances de ténèbres. Et l'un des équipements de l'évangile, c'est de chasser les démons. C'est la guerre spirituelle. C'est les choses qui se préparent dans le jeûne, dans la prière, dans la guerre spirituelle. Et nous menons une guerre spirituelle. Quand nous prêchons l'évangile, nous sortons d'une barque pour aller sur les terres, pour faire de la libération, en fait, de la libération terrestre et spirituelle. Ça, c'est une vraie réalité. C'est pourquoi l'évangéliste seul, tout seul, Et il vaudrait mieux qu'il arrête, parce que c'est très dangereux d'y aller tout seul. Il faut y aller en église. Et en tant qu'évangéliste, à chaque fois que j'étais sur une estrade et que j'étais en train de prêcher la parole de Dieu, je prêchais avec une pleine autorité, mais c'est aussi l'autorité qui est donnée aux pasteurs, aux apôtres, à l'église tout entière. Et je prêchais aussi avec la force, et je continue d'ailleurs, avec la force de l'Alliance. Il y a une force de l'Alliance, tout à fait. Là, c'est une campagne d'évangélisation qu'on a menée à Lahore, donc au Pakistan. Le dernier soir, il y avait pas loin de 30 000 personnes. Les gens guérissaient dans les bus en arrivant. Tellement il y avait des miracles, des signes prodiges. Une musulmane qui était dans un fauteuil roulant depuis 8 ans a été visitée par le Saint-Esprit. Je n'ai pas imposé les mains. C'est, là, à ce niveau-là, ce n'est plus toi qui es en train de faire les choses. Tu es juste en train de dire « Hey, Jésus t'aime !» Tu vois, et le Saint-Esprit est en train d'opérer des miracles de partout. Et ça, c'est le travail. Mais on n'a pas été au Pakistan sans jeûner, prier, sans se préparer dans la guerre.
Tu as une équipe d'intercesseurs aussi, j'imagine.
Alors, je travaille avec les pasteurs et j'ai une stratégie de puissance. J'appelle ça la stratégie de puissance. Et en fait, je leur demande de choisir 12 intercesseurs qui vont couvrir 7 combattants de prière et qui vont me couvrir dans le temps de ministère, avant et après. Et on a 3 semaines de jeûne et prière où on va effectivement, la première semaine, amener tous les membres des églises partenaires dans une repentance personnelle, individuelle. Donc chaque jour, il y a un thème particulier. Et après, la deuxième semaine, nous attaquons sur les péchés de l'Église, des églises partenaires. Et la troisième semaine, nous prions pour la ville et la nation et nous assaillons les trônes dans le monde spirituel. Et c'est extrêmement fort. Et quand j'arrive sur le temps de ministère où je rejoins les pasteurs dans le pays où on a préparé la campagne d'évangélisation, je prie pour les 12 et pour les 7. Et il y a un feu qui tombe sur eux. Et on sait que voilà, on est en train de faire l'œuvre de notre Père qui est gagner des âmes.
Amen.
Mais mon grand souci en tant qu'évangéliste a été la consolidation d'âmes.
Et tu as écrit 2 livres, justement.
Alors, j'ai écrit 2 livres.
Les présenter.
Alors, merci. Alors, donc, j'ai écrit Le pain des miracles pour encourager tous les chrétiens à aller à l'évangélisation et signe prodige à portée de main. En fait, l'évangélisation, c'est trop facile. Et puis, j'ai écrit aussi une étude sur les miracles créatifs dans l'Ancien et Nouveau Testament, L'oreille de Malchus. Vous connaissez Malchus ?
Non.
Alors, Malchus, c'est le type qui s'est fait arracher l'oreille dans le jardin de Gethsémané. Il y a toujours des chrétiens qui ne connaissent pas Malchus. Il y en a qui le connaissent. Je ne sais pas où ils l'ont rencontré. Tu l'as rencontré ?
Dans la Bible.
Et Malchus, en fait, il a eu l'oreille arrachée et la Bible dit que Jésus a guéri son oreille. J'ai pris une loupe et j'ai regardé, mais j'ai réfléchi, j'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé ? Est-ce qu'il a ramassé l'oreille ? Il l'a recollé ? Est-ce qu'il a recréé l'oreille ? S'il l'a guéri, il s'est passé quelque chose. Il y a eu un miracle créatif. Et en étudiant les miracles dans l'Ancien et Nouveau Testament, je me suis aperçu que les chrétiens qui croient ce livre sont des fous.
Amen.
Parce qu'il n'y a aucun miracle qui est possible. Scientifiquement parlant, j'ai regardé scientifiquement, j'ai fait des comparaisons, c'est juste impossible. Donc soit la Bible est un conte de fées, soit un conte de fées réel. Et je vous le dis, Jésus est vraiment vivant.
Amen.
Vrai. Dieu guérit.
Si vous voulez vous procurer ces livres, ils sont disponibles sur omciboutique.com. N'hésitez pas, on présentera tout à l'heure aussi un autre livre en présentant l'école Mathurin Cordier. Il y a plein de ressources sur notre boutique que vous nous avez apportées. On va continuer, on va rester avec toi Rémi. On a une question dans la rubrique Pasteur, j'ai une question de Carole de France qui nous a demandé pourquoi sonne-t-on parfois du chauffard dans l'église ? Premièrement, c'est quoi un chauffard ?
Alors, un chauffard, c'est une trompette. Et c'est un instrument qui a ses origines en Israël.
Tu veux bien nous en montrer un ? Parce que j'en ai un avec toi.
Effectivement, je suis...
On veut le voir hein. Ah, voilà. Là, il y a des chrétiens qui se disent « Ah oui, j'ai déjà vu ça une fois. »
Donc là, c'est une corne de gazelle, d'origine d'Éthiopie. Et donc, qui a été décorée avec de l'argent. Il est un peu customisé. Alors voilà, là, tu as la menorah qui est la tour Eiffel de Jérusalem. Et donc...
Et à quoi ça sert ? Alors, qu'est-ce que ça signifie quand on le sonne ? Parce que toi, c'est quelque chose que tu pratiques.
Oui,
tu sonnes le chauffard.
Tout à fait.
Et
tout
tu me disais, c'est prophétique.
Alors, effectivement, le chauffard a une portée prophétique pour un chrétien né de nouveau, pour un évangéliste, pour un prophète. Parce que en fait, il est complètement intégré dans la parole. Et nous avons, en fait... Un mot qui apparaît dans les Écritures et qui fait partie de, qui est complètement intégré dans l'ADN d'Israël, c'est le terme de jubilé, l'année de grâce. de la part du Seigneur. Mm-hmm. Et cette année de grâce, elle apparaît aussi dans la prophétie d'Ésaïe 61, qu'on retrouve dans Luc 4. L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint, et il m'a envoyé pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs, guérir les cœurs brisés. Vous connaissez cette...
Oui,
et ça finit par... Et pour publier une année de grâce de la part du Seigneur. Et ça, pendant des années, j'ai dit, publier une année de grâce du Seigneur. Bon, ok, non, moi, c'est chassé. Guérir les aveugles, let's go, une année de grâce. J'avais pas de notion de ça. Puis un jour, je lisais un journal du KKL, une association qui soutient directement...
Qui replante
Des arbres
en Israël.
Oui, qui replante des arbres. Ils font pas que ça, mais c'est une association qui aide, en fait, Israël. Et il y a toujours un petit enseignement. Et puis, il parle du jubilé, et que le mot jubilé se dit en hébreu yevel, ou yebel, selon la façon dont tu vas le dire. Et yevel, en fait, veut dire sonner le chauffard.
Ok.
Littéralement. C'est-à-dire que le jubilé est directement lié, en fait, au chauffard. Et effectivement, pour la fête du jubilé, qui arrive tous les 50 ans ou tous les 70 ans, en fait, en Israël, on sonne du chauffard pour le Yevel.
Tu peux nous faire une démonstration ?
Alors, je veux bien.
Attention à vos oreilles.
C'est
prophétique, c'est publié cette année de jubilé.
Alors,
finalement,
effectivement,
c'est ça,
ce son du chauffard est en train de faire résonner dans le monde spirituel. Alors là, c'est une question de foi, effectivement, comme on prie au nom de Jésus, et on peut prendre un chauffard et célébrer, et proclamer, déclarer l'année de grâce du Seigneur. Parce que je pense que vous le savez, nous sommes sauvés par grâce.
Amen.
Amen. Par la foi et au travers du sacrifice de Jésus. Et alors, Jésus a-t-il sonné le chauffard? C'est très probable. On ne le trouve aucune trace dans le Nouveau Testament. On ne voit pas Jésus avec un chauffard, effectivement. Mais il est rabbin. Et le rabbin sonne du chauffard. Ça ne date pas d'il y a 80 ans, cette affaire-là. On retrouve d'ailleurs au Yad Vashem des vieux chauffards aplatis que les rabbins de l'époque de la dernière guerre mondiale planquaient pour pouvoir sonner le chauffard pour le Shabbat, etc. Et donc, Jésus, en fait, est le chauffard de l'Éternel. Pour avoir un chauffard, il faut tuer une bête. Il faut le vider de sa chair, de sa corne à l'intérieur. Il faut le percer. Ça vous rappelle quelqu'un qui a été percé, qui a été mis à mort pour nous. Et Jésus, il faut qu'un souffle, il faut un souffle qui tourne à l'intérieur pour le faire vibrer, le faire résonner, lui faire sonner ce son chaleureux, puissant. Eh bien, Jésus est le chauffard de l'Éternel et le vent de l'Esprit, l'Esprit souffle, le rouard a sonné au travers de Jésus cette prophétie d'Ésaïe 61. Pourquoi je dis que le sonner du chauffard, en tant qu'évangéliste, et aussi cette petite partie prophétique qui est dans ma vie, sonner le chauffard pour moi est très important et j'ai vu beaucoup de miracles en fait se produire. Il faut savoir que la loi du jubilé, quand arrivent les 50 ans, c'est on brise les chaînes de l'esclavage. On remet toutes les dettes. Si toutes les nations pratiquaient le jubilé, il n'y aurait aucun pauvre sur terre. Toutes les dettes sont remises. Les esclaves sont rendus à leur liberté. Les champs qui ont été hypothéqués à cause des dettes sont rendus aux familles. On te rend ton héritage. Sonner le chauffard, c'est toutes ces choses-là. C'est annoncer la puissance de la résurrection, la mort de Jésus et sa résurrection. C'est une façon prophétique de prier.
Et Nadine, il y a un petit voyage qui est prévu en Israël, un grand voyage qui est prévu.
Un grand voyage qui est prévu du 20 au 28 octobre 2019. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient aller en Israël. Et le ministère de Rémi, c'est feuetgloire.com, organise ce voyage du 20 au 28 octobre. Vous pouvez aller sur le site, vous allez avoir toutes les informations. C'est une semaine bien remplie avec une conférence aussi incluse dans ce temps-là.
Exactement.
Une conférence à Jérusalem.
C'est puissant quand même. Hein. Merci beaucoup, Rémi.
Merci.
On va passer maintenant à la rubrique Culture et médias. Nadine, on commence tout de suite avec le film que tu veux nous présenter.
Oui, le film qui s'appelle La Voix du Pardon. C'est un film de Sage Productions qu'on présente plusieurs fois leur film. Le film sort le 22 mai et c'est l'histoire en fait d'un homme qui s'appelle Bart Millar qui a écrit la chanson I Can Only Imagine. Mm-hmm. Il est du groupe Merci Me, un groupe qui est très très populaire et c'est l'histoire de sa vie. Il est abandonné à l'âge de 10 ans par sa mère, il vit avec un père alcoolique, il rentre dans le ministère mais vraiment le Seigneur l'amène d'abord à pardonner son père, à rebâtir la relation avec son père et après l'inspire cette chanson. Je ne peux qu'imaginer, je crois que c'est ça le titre
tout
en français.
Fait, oui.
Et puis après, donc avec toute la l'impact qui vient avec, et puis on va voir la bande-annonce.
C'est une chanson extraordinaire.
Elle est venue juste comme ça. J'ai dû l'écrire en moins de 10 minutes.
Bart, ça ne t'a pas pris 10 minutes pour écrire cette chanson, mais des années de vie. Raconte-moi d'où elle vient.
Je n'ai jamais... raconter mon histoire à qui que ce soit. Quand j'avais 10 ou 11 ans, la vie était dure.
Où est maman ?
Elle s'est tirée d'ici. Elle veut plus de moi.
Stop !
Elle veut plus de toi non plus.
J'ai toujours adoré la musique. Et j'ai trouvé quelques chansons auxquelles je me suis accroché. Elles m'ont donné de l'espoir.
Je suis épaté, ça n'est pas sa vraie voix que j'entends.
Parce qu'il m'en fallait. Je peux y arriver, papa.
Non, tu ne peux pas. Quand tu ouvriras les yeux, tu te rendras compte que tu seras nulle part. Tout ça parce que tu auras voulu poursuivre un rêve absurde.
Je m'en vais, Shannon.
Je veux que tu saches que je prie pour toi tout le temps. Et j'espère que quoi que tu cherches, tu le trouveras.
Qu'est-ce que tu essaies de fuir ?
Mon père.
Alors écris là-dessus. Tu dois transformer toute cette douleur en inspiration.
Il faut que je règle certaines choses. Et je le fais de la seule façon que je connais. C'est en écrivant une chanson.
T'as faim ? J'ai mis la table.
Ça veut dire quoi, ça ?
Je veux réparer mes erreurs. Celles qui t'ont fait souffrir.
Mon père était un monstre, et j'ai vu le Seigneur le transformer.
Toi, t'as un don, un vrai don.
Je croyais pas que Dieu pouvait faire ça. J'ai écrit cette chanson pour mon père.
Et voilà, donc alors qu'on parle de c'est quoi un évangéliste, on parle de l'évangélisation. Et l'évangélisation, c'est présenter Jésus. Et je crois que ce film, j'ai beaucoup aimé parce que c'est une histoire vraie. Mm-hmm. Et ça vient montrer que même si dans la vie, on rencontre des calmes, même si dans la vie, on rencontre des difficultés, Dieu est au-dessus et Dieu peut toujours nous racheter. Dieu a toujours un plan, même si ça commence mal, ça peut toujours bien finir. Donc, si vous voulez avoir le film, il sort en France,
oui,
le 22 mai. Vous pouvez aller sur sagedistribution.com ou sur le net, tout simplement, pour voir
les
dans
cinémas,
quel cinéma mm-hmm. il est disponible. Alors là, on passe à un tout autre ordre d'idées. Mm-hmm. On va parler de l'école Mathurin Cordier. Emmanuel est ici pour en parler. C'est une école privée protestante qui existe depuis 2003 dans les Yvelines.
Non, moi, je suis toute seule.
Et Emmanuel, on va parler un peu de l'école. Donc, l'école s'appelle Mathurin Cordier. Pourquoi ?
Alors, Mathurin Cordier, c'est un pédagogue du XVIe siècle qui est né pas très loin de chez nous, en Normandie, mmh. et qui a eu dans sa classe un certain Jean Calvin. Mmh. Et Jean Calvin, à la veille de son départ, hein, de cette terre, va honorer cet homme, hein, Mathurin Cordier. Je ne sais pas s'il était connu à l'époque. Enfin, il n'y a pas de Facebook hein, à l'époque. Il était bien connu, mais en tout cas, il a honoré ce père qui avait su lui transmettre en fait la foi en ce Dieu merveilleux, la grâce que Jésus nous a faite en venant sur cette croix, sur cette terre. Et donc, il a honoré cet homme. Et donc, on a voulu vraiment aussi, de par son mandat d'éducateur, mm-hmm. et puis parce qu'aussi il était proche de notre de là où on a fait l'école, on a mm-hmm. voulu vraiment prendre ce nom de Mathurin Cordier.
Oui. Et là, voilà. Vous avez commencé, vous étiez un petit groupe de personnes. Comment étaient vos débuts, justement, de...
Alors, on a commencé, on était deux couples. Hein, au départ, on a prié pendant 7 années pour mm-hmm. pouvoir ouvrir cette école. On mm-hmm. était un peu plus que 4. Mm-hmm. Mais au fil du temps, ça s'est un peu essaimé pour... et on s'est retrouvés finalement à, voilà...
Les quatre Lévites.
Les quatre, voilà. Avec nos très chers amis Christian et Adèle Rosier qu'on veut aussi honorer hein, pour leur amitié, leur fidélité, leur passion, hein, parce que tout naît d'une passion. Hein. Et donc, on a démarré cette école en 2003 avec nos cinq pains et nos deux poissons, littéralement. Ouais. On n'avait pas de finances, on n'était pas des érudits, on n'était pas des champions de l'éducation, on avait juste un cœur. Un cœur pour la jeunesse, un cœur pour nos enfants d'abord, mais bien entendu pour tous ceux que le Seigneur allait nous confier par la suite. Oui.
Non, vas-y.
Voilà, non, mais c'est ça. Et puis, donc, on a commencé avec 10 élèves.
Oh, waouh.
Voilà, donc c'est sûr que ça peut paraître tellement petit, tellement insignifiant par rapport à toutes ces écoles où il y a beaucoup de monde, etc. Mais on a cru que vraiment, le Seigneur, il ne méprise pas les petits commencements et que ce n'est jamais les foules qui ont intéressé vraiment Jésus. Il avait toujours un petit reste avec lui. Hein.
Mmh. Et donc, les cieux, ils sont même une toute petite graine, insignifiante, mais ça devient un arbre géant.
Tout à fait, oui. Et justement, avant que l'équipe prépare le visuel vidéo, vous avez des témoignages aussi. Hein. L'école porte énormément de fruits.
Tout à fait, parce qu'notre vision aussi de l'école, ça a toujours été ça depuis le démarrage, c'est d'être un phare, un phare dans la cité. On n'a pas une école pour être enfermé sur nous-mêmes, une bulle, attention, on se protège, c'est pas du tout notre vision, c'est au contraire, on est ouvert sur cette société dont on veut prendre soin, dont on veut voir émerger vraiment des bons fruits, en fait. Et donc, on agit aussi au travers de différentes activités, alors toujours dans le cadre scolaire, bien entendu. Mm-hmm. Par exemple, on a visité pendant plusieurs années des personnes âgées dans une maison de retraite, mais vraiment pour aller leur annoncer aussi vraiment l'amour du Seigneur au travers de poèmes, de chants, de sketchs. On a aussi organisé des petits déjeuners pour les grands-parents de nos élèves ou les grands-parents de cœur.
On a des visuels,
voilà une manière aussi de pouvoir transmettre aussi, mais de travailler avec les générations, pas se couper. Mm-hmm. Hein, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est très important pour nous que la famille aussi soit au cœur de l'école. Okay. C'est pas, je dépose mon enfant à l'école et puis je le récupère ce soir et puis vous en occupez. Et puis non, on travaille ensemble avec les familles. La famille est d'ailleurs la première, c'est les premiers éducateurs de leurs enfants, bien entendu. Hein.
Et là, on va passer au petit visuel vidéo justement.
Alors, dans notre école aussi, on aime la fête, bien sûr. On travaille beaucoup, mais on aime aussi faire la fête. Et donc, on aime fêter les fêtes de l'Éternel. Mm-hmm. Donc, ici, sur la petite photo, on voit la petite fille sous un espèce de drap. On fête la fête de Soukhot tous les ans, ou la fête des récoltes, ou la fête des tabernacles. Mm-hmm. Pour se remémorer quand Moïse, hein, en Israël, il se remémore quand ils ont traversé le désert et que Dieu a pourvu à leurs besoins, ils dormaient sous des tentes. Donc, on a fait tout un grand temps biblique avec toute l'école où, justement, on a présenté le chauffard, on a sonné le chauffard avec nos élèves. Oui. On a vraiment présenté vraiment cette histoire à nos élèves. Et puis, pendant tout le temps de la fête de Soukhot, qui dure je ne sais plus combien de temps en Israël, je ne sais pas si c'est pas 7 jours, on avait donné à nos élèves des draps, des tentes. Parce qu'en Israël, ils font ça. Hein, ils font des cabanes au-dessus de leur terrasse. Et donc, nos élèves étaient ravis avec les pinces à linge, de faire des cabanes et de faire leur récréation. Voilà, c'était très aussi concret. C'était pas juste une histoire. Oui. Il y avait aussi quelque chose de concret pour eux. On veut toujours qu'il y ait le lien entre la parole, entre nos cours, entre toutes ces choses-là.
D'accord. Mm. Alors, on va regarder une petite vidéo qui présente l'école, justement. Mm-hmm.
Dans notre école, on veut qu'il y ait une transmission des valeurs autant qu'il y a une transmission des connaissances. La famille a une valeur, la famille a sa place au sein de l'école aussi. Et on veut entendre les parents aussi, on veut pouvoir être à l'écoute des familles. On se place vraiment dans le sens où on est au service des familles.
L'enfant est pris en compte dans tout ce qu'il est, pas simplement en tant qu'élève. C'est l'enfant avec ce qu'il vit chez lui, là où il en est, ses difficultés et... Et on prend soin de l'enfant ici. Ça m'a permis, au travers de ce travail, d'avoir un impact dans la vie des enfants qui sont présents dans ma classe et de pouvoir les accompagner en leur inculquant que Dieu est à leur côté et qu'ils ont une destinée importante. Ils ont de la valeur, Dieu a un plan pour leur vie. Et voilà, on est là pour les accompagner sur ce chemin. On n'a pas mis Dieu à la porte. Il est présent avec nous partout et les enfants le savent.
Au niveau de l'équipe, on se soutient, on s'encourage, on prie les uns pour les autres. On est unis dans cette vision et puis chacun ses dons, chacun ses talents. L'école est une solution aussi pour tous, voilà, ces parents qui désirent que leur enfant puisse poursuivre le chemin qu'eux ont commencé à tracer dans le cœur de leur enfant au travers de l'Évangile.
Merci en tous les cas, tous ceux qui vont nous aider, tous ceux qui vont nous soutenir, vous êtes vraiment précieux pour nous et c'est plus que des donateurs, vous faites partie du projet. Et une nation qui investit dans l'éducation de ses enfants, c'est une nation qui va porter du fruit et aussi qui va évoluer dans le bon sens.
Tout d'abord, je m'adresserai aux pasteurs et aux leaders du monde chrétien. Je crois que c'est un commandement du Seigneur que d'enseigner la nation. C'est un commandement de Dieu de la part pour les pères de prendre soin des jeunes générations. Et l'éducation chrétienne est une action concrète dans ce sens.
M'a touché quand j'ai regardé cette vidéo, c'est vraiment la dévotion du personnel. Vous avez vraiment un groupe qui le fait vraiment par amour pour les enfants, par amour pour le Seigneur.
Tous sont passionnés par les enfants, mm-hmm. pour pouvoir transmettre en fait tout ce que notre Papa Céleste a pour eux, en fait qu'ils ont une destinée et que chaque élève est... En fait, on n'a pas des élèves devant nous, on a vraiment un être mm-hmm. voilà, unique et on veut en prendre soin. Et ce que le Seigneur met en nous, on veut le transmettre. Et comme on est tous différents, mm-hmm. même les maîtresses, on a toutes nos, comme je le disais dans la vidéo, nos talents et nos dons. Donc chacune apporte en fait à l'enfant en fait selon ce qu'elle est. Et c'est merveilleux de pouvoir semer comme ça dans la vie des enfants.
Et ce que je trouve intéressant dans votre école, parce que quand on entend école privée, il y a peut-être des parents qui regardent, qui sont touchés, qui se disent « oui, je veux que mon enfant ait cet enseignement, mais peut-être j'ai pas les moyens ». Et vous avez un système qui est quand même, qui respecte le revenu, qui essaie d'aider les parents en fait.
Voilà, avec tout à fait. On voulait pas fermer la porte pour des raisons financières ou devenir une école comme certaines écoles privées élitistes avec mm-hmm. que des gens qui ont des mm-hmm. qui sont fortunés. C'était pas du tout notre motivation. Donc effectivement, c'est selon les revenus. Hein, il y a des paliers et selon les revenus. Et c'est vrai que ça parfois malheureusement ça freine. Ça freine, oui. Surtout en France, mm-hmm. ça freine beaucoup les familles de se dire...
C'est un budget, c'est vrai.
Oui, puis l'école est gratuite en France, mm-hmm. donc on comprend pas trop pourquoi je vais mettre de l'argent, surtout si on n'a pas la vision.
Oui.
Si on n'a pas la vision, effectivement, pourquoi aller donner de l'argent mm-hmm. Et justement, Christian Rosier, que vous avez vu sur la vidéo, un jour son fils lui a posé cette question, mais papa, mais pourquoi on n'a pas une belle voiture comme le voisin mm-hmm. Effectivement, il n'avait pas toujours des voitures qui mm-hmm. faisaient rêver un enfant, et il lui a répondu cette phrase qui encore aujourd'hui me...
C'est historique.
Et voilà, puisque c'était il y a vraiment au moins 15 ans, et il lui a dit, mais mon fils, je préfère investir en toi. Mmh. Et il a investi dans son fils, et l'argent qu'il aurait pu mettre tous les mois dans un crédit pour une belle voiture, il le mettait pour payer une mensualité. Ouais. Je voudrais encourager vraiment toutes les familles, dans quoi est-ce qu'on veut investir.
Oui.
C'est vrai que nous, nos enfants n'ont jamais eu les super survêtements Nike et les super et tout, mais on ne regrette pas, en fait.
Oui. Mmh. Et donc, si vous voulez avoir des informations, c'est écolemathurincordier.com.
Tout à fait.
Et pour terminer, je présente ce livre ici qui vient avec un CD qui est disponible sur EMCI Boutique, qui a été créé par l'école, en fait, suite à un spectacle.
Suite à un spectacle,
le
voilà.
Le plus beau des cadeaux.
Le plus beau des cadeaux. Il y a un petit CD, effectivement. Mmh. Tous les chants ont été écrits à l'école, la musique. Et ce sont nos élèves qui interprètent. Ça a été enregistré en studio. Mmh. Et c'est vraiment un magnifique ouvrage que je pense toutes les églises devraient avoir au moins... Dans cette période de Noël, toutes mm-hmm. les familles pour découvrir quel est le véritable sens de Noël. Et une fois de plus, on annonce le cœur du Père.
Église et famille ?
Et famille, bien sûr, mm-hmm. et famille, oui. Mm-hmm.
Donc, écolemathurincordier.com. Allez vous inscrire, inscrire vos enfants, allez les soutenir aussi. Mm. Ils ont besoin de soutien, de prière, mais aussi des soutiens tangibles.
On a dit où elle était située ?
Dans les Yvelines.
Oui,
dans les Yvelines.
C'est grand.
Ok, d'accord.
Tu vois, c'est comme moi, je suis grande.
C'est l'ouest parisien.
Merci beaucoup à vous tous. Merci particulièrement à nos invités d'avoir été avec nous presque toute cette semaine.
Merci beaucoup.
Avec grand plaisir. Merci pour tout ce que vous nous avez apporté. Et puis nous allons nous retrouver demain. Et oui, chers fidèles téléspectateurs, demain, notre thème sera « Combien de points communs faut-il avoir pour réussir son mariage ?» Un petit test de personnalité, qui sait. Nous aurons la rubrique « C'est mon histoire » avec les pasteurs Yvan et Nathalie Carluère qui sont venus justement nous dire la découverte qu'ils ont faite. Et oui, ils sont différents. Et oui, c'est un atout pour leur couple. Vous découvrirez ça demain. Merci à vous de nous avoir suivis et bonjour chez vous.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Bonjour chez vous sur emcitv.com.